Si vous relisez votre Bible en commençant depuis le début et en suivant chapitre après chapitre jusqu'à la fin, vous allez rapidement vous souvenir que l'Ancien Testament en particulier est baigné dans le sang. Il y a du sang partout dans l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs un élément qui gêne certains lecteurs peu avertis de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de sang dans l'Ancien Testament. On le trouve dès le départ. On le trouve au chapitre 4 déjà, et on le trouve partout. Pensez par exemple à ce moment qui nous est rapporté dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7, où l'on va faire la dédicace du temple de Salomon. Après la prière du roi Salomon, le feu va tomber du ciel sur l'Holocauste, et le texte nous dit que l'on va sacrifier ce jour-là 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Vous imaginez le flot de sang dans la ville de Jérusalem avec des sacrifices en grand nombre comme ça. 120 000 brebis, 22 000 bœufs. Le sang est partout et en quantité. Le livre de la Genèse est à peine ouvert que déjà le sang apparaît. Le sang du premier martyr. Au chapitre 4, nous est rapporté cet événement où l'on voit les deux frères, Caïn et Abel, qui offrent leur sacrifice à Dieu. L'un va apporter ce qu'il a fait, lui, le produit de son travail, ses œuvres. L'autre va apporter ce que Dieu a demandé pour le pardon de ses péchés. Et Caïn va être tellement furieux contre son frère qu'il va le tuer. Un petit peu plus loin dans le texte, il nous est dit ceci dans Genèse au chapitre 4, à partir du verset 9. Genèse, chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel crie. C'est une image, bien entendu, mais cette image court tout au travers de l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament encore. Le sang crie, le sang de tous les sacrifices crie, parce que tous les sacrifices qui sont faits sont les sacrifices d'animaux innocents qui vont porter la conséquence du péché de l'humanité. Le sang dans l'Ancien Testament crie, il crie dans le temple. Et c'est la raison pour laquelle, une fois par an, on faisait le nettoyage du sanctuaire. Parce que le sang qui criait, s'était accumulé dans le sanctuaire. Le sang que l'on versait au pied de l'autel des sacrifices, criait dans le temple. Une fois par an, on était invité à faire le nettoyage du temple, à purifier le temple, à purifier le peuple, à mettre les choses en ordre de nouveau. Et puis l'année suivante recommençait. Le sang crie dans l'Ancien Testament, le sang crie dans la Bible, il va crier même tout au travers du Nouveau Testament et crier encore au travers de notre époque jusqu'à la fin. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, c'est le texte que nous avons lu il y a un instant. Dans ce texte, il est question des âmes, symboliquement des martyrs qui sont morts et qui sont sous l'autel. Référence à l'autel des sacrifices. Apocalypse chapitre 6, verset 10, dit ceci. Il crie d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Ils attendent que justice soit faite. Ils appellent la vengeance de Dieu. Le sang des martyrs crie encore. Il crie tout au travers de l'histoire. Le sang des sacrifices crie au travers de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Crie vengeance, appelle la justice de Dieu, invite Dieu, curieusement, à venir faire son jugement sur le monde. C'est une manière de dire que pour ceux qui appellent ce jugement, le jugement est bonne nouvelle. Mais inévitablement, on se pose la question si le sang des martyrs crie. Si le sang d'Abel crie, si le sang des martyrs de toutes les époques crie, c'est le sang d'hommes et de femmes qui sont aussi des pécheurs. Mais alors, si le sang de ces pécheurs crie, appelant justice et vengeance, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ crie-t-il, lui, depuis 2000 ans, appelant la justice de Dieu? Ce sang de Jésus crie encore plus fort que celui des martyrs, il crie encore plus fort que celui d'Abel et de tous les autres qui ont donné leur vie pour leur foi, parce que le sang de Jésus, c'est le sang du juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de celui qui n'a pas péché, ça ne doit pas être la mort, mais ça l'a été pour Jésus. Et ce sang-là crie aujourd'hui, et il crie d'une voix forte, demandant le jugement de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre remet ici le sacrifice de Jésus en perspective au chapitre 9. Épître aux Hébreux, chapitre 9, au verset 11, l'apôtre reprend cet argument à combien plus forte raison. Au verset 11, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » C'est dire à quel point l'intercession de Jésus, son ministère aujourd'hui dans le sanctuaire céleste, a encore beaucoup plus d'importance que tout ce qui se passait dans le sanctuaire sur terre, dans l'Ancien Testament. Et ce que Jésus apporte, c'est son propre sang, qui crie et qui crie justice. Mais curieusement, quand nous y pensons, le sang de Jésus ne crie pas vengeance pour lui-même, il crie vengeance pour nous. Et c'est là le mystère de l'Évangile. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance pour lui, il crie pour nous, de sorte que nous puissions, nous, être sauvés, être au bénéfice de l'injustice dont il a été victime en étant sacrifié, lui qui n'était pas pécheur. Jésus crie vengeance pour nous sauver. Je pense à ce texte de l'Épître de Pierre, la première, au chapitre 2, où l'apôtre remet encore ces choses en perspective. Premier épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 21, il est dit ceci. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est par lui justement, par ce qu'il a fait, que la justice nous est accessible. Et il s'en est remis, nous dit le texte, à celui qui juge justement. Et celui qui juge justement met à notre disposition cette justice de Jésus. Il est admirable de penser à quel point Jésus ne cherche pas à tirer vengeance pour lui-même, mais pour moi, pour chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu est finalement la bonne nouvelle aussi pour aujourd'hui. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4, Dieu dit qu'il a un procès avec son peuple. Il est en procès avec son peuple parce que son peuple l'a rejeté. Et effectivement, Dieu est en procès avec son peuple. La question va être maintenant de savoir, dans ce procès, si nous avons un avocat ou pas. Et c'est en réalité là que sera toute la différence. Avons-nous un avocat auprès du Père? Ou bien voulons-nous nous présenter nous-mêmes pour justifier qui nous sommes? Toute la différence sera pour ceux qui ont un avocat ou pour ceux qui n'en ont pas. Lorsque nous lisons dans le livre des psaumes, déjà le psalmiste exprime à quel point le jugement est une bonne nouvelle. Regardez avec moi dans le livre des psaumes, le psaume 98 par exemple. Psaume 98, dès le verset 4, il est écrit ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Le psalmiste comprend déjà que le jugement de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est le moment où, en fait, Dieu réclame vengeance pour chacun d'entre nous. À moi la vengeance et la rétribution, disait le Seigneur. Mais pour nous, et finalement nous en sommes les bénéficiaires. Je pense à ce passage de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 6 et 7. Parce que ce passage est en réalité la réponse à ce cri que nous avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Ce texte, vous le connaissez bien, il est écrit ceci. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce texte répond à cet appel des martyrs que l'on lisait tout à l'heure, « Jusqu'à quand tarderas-tu à faire justice ?» Et maintenant, au chapitre 14, dans l'Apocalypse, il dit, « Voilà, l'heure du jugement est venue. » Je ne peux que me réjouir de savoir que le jugement a lieu maintenant dans le ciel. Parce que c'est le moment où Dieu va tirer vengeance pour notre bénéfice. Le sang crie. Le sang d'Abel crie encore. Le sang des martyrs crie encore. Mais le sang de Jésus crie plus fort encore. Mais il peut crier de deux manières. Il peut crier en ma faveur, mais il peut crier contre nous, si nous n'avons pas d'avocat, si nous n'avons pas créé avec Dieu ce lien personnel et particulier, le sang de Christ crie contre nous. Mais le sang de Jésus peut crier en notre faveur pour que Dieu nous fasse justice et nous donne sa justice. Alors aujourd'hui, le sang de Jésus crie encore, mais pour vous et pour moi, comment crie-t-il ? En ma faveur ou contre moi. On raconte l'histoire de Robert Bruce, qui était l'héritier de la couronne d'Écosse au début des années 1300. Il était en guerre contre les Anglais, qui avaient dominé l'Écosse, et il voulait reprendre l'indépendance de sa nation. Vers la fin du conflit avec les Anglais, Robert Bruce s'était caché dans la forêt parce que les Anglais voulaient le capturer pour qu'il n'ait pas le temps de monter sur le trône de l'Écosse et déclarer l'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Il était donc recherché. Il s'est caché dans la forêt avec quelques hommes et il avait sa stratégie. Mais les Anglais aussi. Ne sachant comment trouver Robert Bruce dans la forêt, ils ont été prendre chez lui ses propres chiens. Et ils ont utilisé ses propres chiens pour retrouver leur maître dans la forêt. Tout d'un coup, Bruce et ceux qui étaient avec lui ont entendu les chiens au loin. Et ses amis ont dit, « C'est fini pour nous. Les chiens sont à nos trousses. » Bruce a réfléchi et leur a dit, « Pas du tout. Suivez-moi. » Et ses amis l'ont suivi. Il a été un peu plus loin, où il y avait un ruisseau qui coulait. Il a marché dans le ruisseau, qu'il a remonté avec ses hommes, pendant un petit moment, et puis il a traversé le ruisseau, il est reparti de l'autre côté. Les chiens sont arrivés un moment après devant le ruisseau, et là, ils étaient perdus. Ils avaient perdu la trace de leur maître. Ils ne retrouvaient plus son odeur. Les Anglais les ont poussés pour qu'ils traversent le ruisseau qui leur monte le chemin de l'autre côté, mais les chiens n'ont pas voulu passer. Ils avaient perdu la trace. Ils ont tourné dans tous les sens. Ils avaient perdu la trace de leur maître. Pendant ce temps-là, Bruce a eu le temps de s'asseoir sur le trône de l'Écosse. Mais cette histoire est une image admirable, je trouve, de ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Le diable est effectivement sur nos trousses. Il est derrière nous pour nous infliger la conséquence de notre péché. Mais nous sommes invités à rentrer par les eaux du baptême et par le lavement des pieds que nous allons faire tout à l'heure dans ce ruisseau purificateur. Par ce moyen-là, le diable va perdre nos traces. Il ne peut plus nous poursuivre. En rentrant dans les eaux du baptême et en pratiquant le lavement des pieds dans la Sainte Seine, nous barrons la route à l'ennemi et nous pouvons ressortir de l'autre côté, victorieux, prêts à régner avec Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le sang de Jésus crie encore plus fort que le sang des martyrs de tous les temps. Je me pose la question de savoir comment crie-t-il. Crie-t-il contre moi ou crie-t-il pour moi? Bien évidemment, Jean, dans son épître, avait donné la solution. Et je vous propose de regarder cette solution que l'apôtre Jean avait apportée dans ce texte que vous connaissez bien de la première épître de Jean au chapitre 5. Bien sûr, il y a une réponse, mais cette réponse, c'est nous qui allons la donner. J'aimerais la relire avec vous dans la première épître de Jean au chapitre 5, et nous lirons, si vous le voulez bien, le verset 12. Il est écrit ceci. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et maintenant, on peut comprendre pourquoi ce texte qui se trouve un peu plus tôt dans l'épître de Jean est si fort et si significatif. Toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 1er cependant, se trouve cette phrase au verset 7. « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus crie aujourd'hui, et je vous invite à choisir, je vous invite à répondre, je vous invite à décider s'il criera pour vous ou s'il criera contre vous. Car le sang de Jésus peut nous purifier chacun de tout péché. Amen.